science-fiction est un genre particulièrement intéressant dans le fait qu'il arrive à analyser notre société, notre réalité, voir notre passé et avoir aussi une prospective que les autres littératures n'ont pas. Les gens, en règle générale, commencent à avoir envie d'autre chose, d'autres systèmes, d'autres façons de penser, d'autres façons d'agir aussi, pour le coup. Et la science-fiction va, à mon sens, être un outil en ce sens.
Bonjour Xavier Dolo.
Bonjour Jeanne.
Tu es l'auteur de 9 romans et d'une cinquantaine de nouvelles de science-fiction, de fantastique, de fantasy, la plupart publiées sous un autre nom, celui de Thomas Géa.
Oui.
À Rennes, on te connaît sous ton vrai nom, notamment Xavier Dolo en tant que libraire. Tu travailles actuellement à la librairie Maison d'édition critique spécialisée dans les littératures de l'imaginaire et située à Rennes à côté de la place Hoche. La librairie a réouvert ses portes à la faveur du déconfinement. Est-ce que déjà tu pourrais nous raconter comment est-ce que ça s'est passé pour vous ces derniers mois et ces derniers jours pour la réouverture ?
Alors ça s'est à peu près mal passé, on va dire, hein, puisque bon, on a en tant que libraire été déterminé comme non pertinent, on va dire. Donc effectivement, on s'est tous retrouvés à la maison. Hein, voilà, le livre n'a pas été considéré comme un produit de première nécessité. Donc la librairie n'a pas du tout continué d'exploiter par exemple le pick and collect ou ce genre de choses. Elle a totalement fermé. On a pris des commandes malgré tout, mais que les personnes sont venues chercher évidemment à la réouverture, à la fin du confinement. Voilà.
Ça a eu un impact lourd au niveau financier sur la librairie ?
Oui, c'est certain, parce que bien, il y a quand même un manque à gagner criant sur 2 mois de fermeture. 2 mois, on ne se rend pas compte, mais 2 mois, il n'y en a que 12 dans l'année. Hein. Donc, effectivement, un chiffre d'affaires mensuel est important à la fois eh bien, pour l'équilibre des finances de la librairie, mais aussi pour le paiement des employés, pour le paiement des charges. Il y a beaucoup de charges dans une librairie, donc c'est certain que les factures continuent d'être payées la plupart du temps, même si certaines ont été gelées pendant le confinement aussi. Mais c'est vrai que pour les librairies les plus fragiles, j'allais dire, celles qui viennent de s'installer par exemple, ou qui sont là depuis 2, 3, 4, 5 ans peut-être, eh bien, c'est peut-être encore plus difficile pour ces librairies-là de s'en sortir actuellement, parce que eh bien, les finances là sont en règle générale assez précaires, parce qu'on sait très bien que ce genre de commerce est très 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 difficile à rentabiliser, et surtout ces 10-15 dernières années où le seuil de rentabilité est passé de 5 à 15 ans peut-être quasiment, parce que c'est une économie, celle du livre, qui est extrêmement difficile.
Il n'y a pas eu d'aide de l'État particulière ?
Si, il y a eu des aides. Bien évidemment, bon, le chômage partiel a été pris en charge par l'État. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est une bonne chose. Après, il aurait fallu que je demande à mon patron, Eric, de savoir ce qu'il a eu exactement comme aide. Mais je sais que le gouvernement a quand même promis pas mal de choses pour la librairie, à défaut d'en proposer pour tous les pans de la culture. Mais pour les librairies, en tout cas, je crois que des choses ont été faites et plutôt bien faites. On va voir après le déconfinement si eh bien, ces promesses déjà sont tenues totalement, et si, eh bien, si les librairies vont finalement s'en sortir et pouvoir reprendre une activité normale, j'allais dire, quoi. Parce qu'il n'y a que ça qui va faire la différence, hein, c'est que les librairies doivent reprendre une activité normale pour s'en sortir et pas toutes fermer les unes après les autres, quoi. Voilà.
Vous avez réouvert il y a quelques jours, justement, en mettant en place des normes sanitaires avec le port du masque, pas plus de 2 personnes dans la librairie. Est-ce que, malgré ça, les gens sont venus pour acheter des livres ?
Oui, effectivement, c'est assez strict, hein, comme façon de faire, puisque à l'entrée, on met du gel hydroalcoolique, on oblige les personnes qui viennent à mettre un masque, et en plus, c'est simplement 2 personnes dans le magasin seulement, en même temps, parce que le magasin ne fait que 55 mètres carrés. Effectivement, on n'est pas le Fayre, on n'est pas le Forum, on n'est pas ces grosses librairies, donc on doit prendre ces mesures radicales. Alors, tout le monde ne comprend pas ces mesures, mais j'allais dire que le 3/4 quand même des personnes qui viennent à la librairie pour nous acheter des livres actuellement comprennent très bien les mesures qu'on prend et les acceptent et les appliquent. Donc on a pas mal de monde qui vient, effectivement, hein, pas mal de monde qui nous soutient, pas mal de monde qui nous avait déjà soutenus pendant le confinement. Et là, actuellement, c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes venir avec leur liste de livres, leur pile de confinement, comme on dit, hein, voilà, et qui nous les prennent ou nous les commandent. Voilà. Ça s'est déjà un peu tassé quand même malgré tout. C'était les premiers jours qui étaient vraiment les plus denses. On commence déjà à sentir un tassement. Alors, c'est vrai que si vous voulez soutenir le livre actuellement, continuez à aller en librairie parce que c'est vrai que là, si le reflux continue, ça va être vraiment difficile pour beaucoup. Pour Critique, ça devrait aller parce que ça fait 20 ans que la librairie est là. On a besoin de votre soutien, c'est une évidence. Mais continuez d'aller dans les librairies en général, et pas simplement les premiers jours là, du déconfinement.
Ça fait plusieurs années que tu es libraire chez Critique. Tu dis d'ailleurs volontiers que plus qu'être libraire, tu es passeur de littérature. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier-là? Comment est-ce que tu es arrivé là d'ailleurs?
Ah, comment je suis arrivé là? Alors, j'étais à la fac de lettres, à Rennes 2, et je cherchais quoi faire de ma vie, autre que professeur. Puisque je ne me sentais pas la fibre du professorat. Et c'est vrai qu'en fac de lettres, on nous disait, on nous rabâchait même souvent que 95% d'entre nous deviendraient prof de français, sans doute, quoi. Voilà, moi, ça n'avait jamais été mon fantasme d'être prof de français. J'étais toujours plutôt axé sur l'écriture, sur la lecture, sur effectivement le côté créatif, j'allais dire. Je cherchais un petit peu ma voie. Et je me suis retrouvé à découvrir, moi j'étais passionné de science-fiction déjà à l'époque, hein, mais je me suis découvert en fait une librairie à Rennes, Critique, qui avait à peine un an d'existence et qui organisait chaque mois des réunions qui s'appelaient les mercredis de la science-fiction. Voilà. Donc chaque mois, je suis allé à ces réunions, j'ai rencontré pas mal de gens. Pas mal de gens d'ailleurs qui depuis ont fait leur bonhomme de chemin, qui travaillent par exemple dans l'édition. Je pense à David Kefelec par exemple qui travaille chez Albin Michel dans le numérique maintenant. Il y en a plein d'autres. Hein. Et donc j'ai sympathisé avec Eric le gérant de Critique et on est devenu plutôt amis. Et il m'a proposé de faire un stage, voilà, tout simplement. Du coup j'ai arrêté plus ou moins mes études pour m'impliquer davantage dans Critique. Donc je suis parti de la fac pas tout de suite, hein, je vais assez vite, mais très vite en fait je suis passé du stage à un petit contrat, puis à un plus gros contrat, puis jusqu'à être embauché totalement définitivement en CDI, voilà, pendant quelques années, jusqu'en 2008. Après j'ai été renvoyé. J'ai été responsable SFBD au Forum du Livre. Et ensuite, je suis revenu à Critique puisqu'il ne m'avait pas renvoyé pour d'autres motifs que financiers. Et comme ça marchait beaucoup mieux, je suis revenu après à Critique jusqu'à maintenant, en fait. Voilà.
Toi qui as été à l'initiative de la section littérature de l'imaginaire qui grandit constamment dans la librairie Critique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Qu'est-ce qui t'anime particulièrement dans cette littérature-là de SF, de fantasy?
C'est vrai que quand je suis arrivé à Critique, il y avait une petite étagère de science-fiction, une petite table. Bon, voilà. Cette littérature était déjà là, mais c'est vrai que j'ai toujours eu cette passion pour les littératures d'imaginaire, que ce soit fantasy, science-fiction, fantastique. Hein. Je ne les séparais pas d'une certaine façon parce que les livres que je lisais dans les collections où je les lisais les mélangeaient allègrement aussi. Alors pour moi, c'était un petit peu les mêmes cultures. Et ce que j'aimais dans ces littératures-là, c'est qu'elles apportaient plein de choses. Elles m'apportaient beaucoup de choses sur ce que je vivais dans le réel. Elle m'apportait vraiment une transposition par la fiction, justement, de choses qui se passent à la fois en termes d'écologie, de politique, de plein de choses. Mais elle m'apportait aussi, justement, cette vague d'imaginaire dont j'avais besoin pour me nourrir, en fait. Voilà. Et je me suis rendu compte très tôt que j'avais besoin d'imaginaire, de beaucoup d'imaginaire pour nourrir ma propre réalité. Et je trouvais que cette littérature était vraiment parfaite pour ça. Elle m'apportait vraiment tous ces aspects, à la fois une plongée dans le réel et une plongée dans l'imaginaire, parce qu'il n'y a pas mieux, je trouve, que cette littérature pour les mêler tous les deux, et ces aspects-là en tout cas. et nous donner de la perspective et de la profondeur de champ. Moi, je trouve que c'est une littérature qui nous donne de la profondeur de champ, et ça, j'adore dans cette littérature-là. Je trouve que c'est ce que ne me donnait plus vraiment et réellement la littérature générale, qui est souvent une littérature de repli, une littérature qui se tourne plus vers la nostalgie, vers le passé, ou vers le présent, tout simplement, que vers l'avenir, ou qui se pose de bonnes questions sur le passé, justement. Et je trouve que ces genres de l'imaginaire ont tellement de diversité, et bien qu'elles se posent ces questions sur... Donc j'ai toujours été ensuite extrêmement déçu de voir que ces littératures-là étaient considérées comme des littératures pour enfants, voire pour attarder, comme on disait avant. Alors que, non, ce n'est pas le cas. J'aime bien le théorème d'un écrivain qui s'appelle Theodore Sturgeon, qui est un des grands de l'âge d'or de la science-fiction, justement, américaine, et qui disait que 90% de n'importe quoi ne vaut rien. Voilà, c'est pareil dans la littérature générale, c'est pareil dans le polar, c'est pareil dans la science-fiction. Il y a plein de choses qui ne sont pas très bonnes, mais par contre, ce qui est bon, c'est ce qu'il faut aussi mettre en avant. Et je trouvais qu'on ne mettait pas assez en avant le fait que la science-fiction, et la fantasy d'ailleurs aussi est un genre particulièrement intéressant dans le fait qu'il arrive à analyser notre société, notre réalité, voire notre passé, et avoir aussi une prospective que les autres littératures n'ont pas. Donc moi, en tant que passeur, comme tu dis, j'ai toujours essayé de montrer aux gens qui venaient dans la librairie qu'il y avait peut-être le tort parfois de mettre le mauvais pied en face de moi. J'ai toujours essayé de montrer, justement, en essayant de proposer les bons livres au bon moment à certaines personnes, que ces littératures-là étaient valables et qu'elles pouvaient leur apporter quelque chose. Donc c'est ce travail-là que je fais depuis plus de 20 ans maintenant, et que j'essaye toujours de développer, parce qu'il y a encore du travail à faire dans ce domaine, même si ces genres ont tendance maintenant à se démocratiser beaucoup plus avec la période actuelle. On vit dans un monde qui parfois nous fait songer à du post-apocalyptique, quand on parle d'écologie, quand on parle de collapsologie, quand on parle de tous ces phénomènes qui sont en train d'arriver et qui mettent peut-être en danger notre planète. Les écrivains de science-fiction en ont parlé déjà il y a 10, 20, 30, 40, voire jusqu'à 80 ans. Je pense par exemple à un écrivain qui s'appelle Stanley Weinbaum, qui est un des précurseurs de la science-fiction américaine et qui a écrit quelques nouvelles. Il est mort jeune, mais il a écrit quelques nouvelles qui ont été recueillies dans un recueil qui s'appelle j'ai oublié, mais c'est à l'Arbre Vengeur. Et il y a une nouvelle notamment qui nous parle du fait que les deux Amériques se détachent l'une de l'autre par un phénomène de tremblement de terre. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Le Gulf Stream disparaît. Avec la disparition du Gulf Stream, qu'est-ce qu'on a comme conséquence? L'Europe vit une période glaciaire. Et que font les Européens? Ils migrent ailleurs, là où l'herbe est plus verte. Quand on entend actuellement beaucoup de choses justement sur les questions des migrants qui affluent en Europe, lire un peu de science-fiction n'aurait pas fait de mal à ceux qui prétendent que les migrants n'ont rien à faire par chez nous. Parce que le jour où évidemment on a des phénomènes comme ça qui ont lieu, on est bien content de trouver quelqu'un pour nous accueillir. Et la science-fiction, je trouve qu'elle apporte cette réflexion. Elle apporte cette réflexion depuis très longtemps. Et c'est pour ça que je pense que c'est un genre qui va plaire de plus en plus maintenant, parce qu'elle nous aide.
Tu as senti un changement justement ces 20 dernières années sur la vision qu'avaient les gens, l'opinion publique de cette littérature de genre?
Oui, clairement. On est passé d'une littérature de fans à une littérature qui est presque devenue mainstream. Je me souviens que quand j'ai commencé à lire et à écrire de la science-fiction d'ailleurs, pour publier et pour lire de la science-fiction, on était vraiment obligé d'aller voir dans des choses très spécialisées. Moi, j'étais abonné à des fanzines, par exemple. Alors, les fanzines, ce sont des revues amateurs, qui publient des textes amateurs. Les collections de science-fiction étaient toutes dirigées par des grands fans de science-fiction. Leur diffusion était parfois chaotique. Maintenant, moi, je vois aussi que cette littérature de science-fiction, les littératures de l'imaginaire, sont en train de se diffuser grandement chez les grands éditeurs aussi. Gallimard, Le Seuil. J'ai même vu, alors je ne pensais pas le vivre un jour, mais j'ai même vu de la fantasy urbaine, alors de la fantasy qui se déroule dans un cadre urbain, tout simplement, chez un éditeur comme Julliard. je ne pensais pas voir ça un jour. Donc oui, ces littératures sont en train de se diffuser partout. Les lecteurs sont en train d'accepter que l'imaginaire, justement, imprègne leur lecture de plus en plus. Et là où c'était effectivement un épiphénomène avant, eh bien on retrouve, je trouve maintenant, ça comme un phénomène généralisé. Tous les éditeurs de littérature générale publient de la science-fiction actuellement.
Justement, actuellement, du fait de la pandémie mondiale, on assiste à une explosion de l'intérêt par rapport aux récits post-apocalyptiques, tu l'as évoqué tout à l'heure. Est-ce que tu penses que du coup, au-delà des conséquences malheureuses de cette pandémie, il y aura aussi cet aspect positif, en tout cas pour cette littérature, d'être mis au goût du jour et peut-être de favoriser aussi la prise de conscience sur les mises en garde que formulait cette littérature-là ?
En tout cas, c'est mon souhait. Est-ce qu'on y parviendra ? Je ne sais pas. En tout cas, elle fait réfléchir, cette littérature. Et je pense que on vit actuellement une époque où les gens, en règle générale, commencent à avoir envie d'autre chose, d'autres systèmes, d'autres façons de penser, d'autres façons d'agir aussi, pour le coup. Et la science-fiction va, à mon sens, être un outil en ce sens. Elle va aider à trouver des idées, des envies différentes, parce que cette littérature, qu'elle ait écrit du post-apo, du cyberpunk, comme on dit, ou de la dystopie, de l'utopie, a diffusé énormément d'idées. Et je pense qu'il y a beaucoup à puiser dans ces littératures-là, justement pour les adapter à ce qu'on vit ou à ce qu'on va vivre. Et pour cette raison, je pense effectivement que beaucoup, beaucoup de lecteurs vont enfin se tourner vers cette littérature qui a longtemps été perçue comme hermétique, mais qui ne l'est pas du tout. Qui au contraire est une littérature proche de l'humain, même quand elle était simplement enfantine dans les années 20, dans les années 30, qu'elle diffusait des clichés, elle était pour beaucoup une littérature humaine. Et je pense qu'elle a toujours eu ça dans ses gènes, en fait. Et je pense qu'on commence à s'en rendre compte, que les lecteurs commencent à s'en rendre compte et qu'ils vont de plus en plus s'en rendre compte. Donc j'ai bon espoir.
En plus de ta casquette de libraire, de passeur de littérature, tu en as une autre, celle d'auteur, on l'a évoqué un petit peu au début. Est-ce que tu pourrais nous raconter comment est-ce que ça s'est passé pour toi ? Comment est-ce que tu as pris la plume ? Est-ce que c'était antérieur justement à ta volonté de passer la littérature, d'en parler aux autres ? Ou est-ce que c'est venu après ?
C'est bien antérieur, parce que j'ai écrit mon premier poème en CM2, donc c'était déjà de la SF d'ailleurs. Donc effectivement, oui, c'est bien antérieur. J'ai écrit ensuite un roman à 12 ans, un roman de fantasy. J'avais lu Bilbo le Hobbit, je pense. Hein. J'avais des lutins, des trolls, des chevaliers, bon, tout ça. Et j'avais beaucoup aimé aussi Yvain le chevalier au lion. Donc c'est vrai que bon, y avait un petit mélange des deux, je pense. C'était une prof de français d'ailleurs qui nous avait fait écrire un petit roman en 6e. Donc avec des rédactions qu'on faisait au fur et à mesure de l'année, j'avais trouvé que c'était une super idée. Et puis à la fin de l'année, on avait un petit roman, donc quelque part, c'est comme ça que je me suis lancé. J'ai eu aussi un prof en quatrième, M. Meclerc, à Bégard, dans les Côtes d'Armor, voilà, qui lui a eu une autre influence, c'est qu'il m'a permis de réaliser qu'on pouvait être qui on avait envie d'être et qu'on pouvait faire ce qu'on avait envie de faire, que tout nous était autorisé si on se donnait aussi quelques moyens pour y arriver, évidemment. Quoi, voilà. Il n'y avait rien de figé dans le marbre. Et moi, c'est vrai que j'étais passionné par l'écriture. J'écrivais beaucoup de poésie, je commençais déjà à écrire des nouvelles. Bon, mais je suis resté extrêmement dilettante. J'ai beaucoup écrit de nouvelles ensuite, quand j'étais au lycée aussi. Et c'est là que j'ai commencé à vraiment publier. J'ai publié ma première nouvelle en 1994, dans un fanzine qui s'appelait Dragon et Microchips, une nouvelle fantastique qui s'appelait Solène. Bon, voilà. Pendant longtemps, je me suis quelque part contenté aussi d'écrire des nouvelles et de les publier dans des fanzines. Puis, à un moment donné, on commençait à sortir chez un éditeur que je connaissais déjà bien, hein, mais qui avait des velléités de se professionnaliser un petit peu, des appels à texte. Et donc j'ai répondu à un appel à texte pour une anthologie qui s'appelait Rêve d'absinthe, qui publiait des textes de fantastique décadent. J'ai écrit un texte qui se passe dans le milieu théâtral à la fin du 19e. et qui est disponible d'ailleurs dans un de mes recueils qui s'appelle Les Créateurs maintenant. Cette nouvelle a été acceptée, même si elle a été considérée comme pas assez décadente. J'avais pas mis assez de scènes de sexe, visiblement. Alors j'en ai rajouté une. Bon, voilà, mais en tout cas, c'est parti comme ça. C'était mon premier texte professionnel et payé, en fait. Et là, je me suis rendu compte que, eh bien, il y avait des éditeurs qui payaient pour qu'on écrive et que c'était un métier, écrivain. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas moi ? Voilà. Et donc, j'ai continué d'écrire des nouvelles. Je me suis très vite rendu compte que les nouvelles, ça paierait jamais. Ça ne paierait pas grand-chose, en tout cas. Mais comme c'est ce que je préférais écrire, de toute façon, bon, bah... Voilà, je me suis tourné aussi vers la librairie, qui, me semblait-il, était mon autre passion de toute façon. Donc c'était une autre façon de passer aussi cet amour pour les littératures de l'imaginaire, l'écriture, la librairie. Voilà, c'était un tout pour moi finalement, quoi. Le roman est venu ensuite, le premier roman est venu ensuite en 2005, grâce à Philippe Ward, qui est éditeur chez Rivière Blanche, et qui m'avait déjà permis de publier ma première nouvelle. Quand j'ai commencé à publier des romans, eh bien, je me suis dit « Ah ça y est, je me sens enfin capable d'écrire un roman ». C'est ce que j'ai fait. Et j'ai continué après, plus tard, à en écrire de plus en plus et de les publier chez des éditeurs qui me payaient pour ça. Donc j'ai continué depuis. C'est vrai que la passion ne s'est jamais éteinte de ce côté-là, c'est certain. Mon dernier roman, c'est... un roman de fantasy qui s'intitule « Des sorciers et des hommes ». Alors le titre est un hommage à Steinbeck, qui est un de mes auteurs favoris, et qui a été édité chez les éditions Critique, justement, puisque Critique, entre-temps, est devenu aussi éditeur. Preuve que j'étais tombé dans le bon creuset, finalement, quoi.
Et dans le processus, justement, tu as abandonné le nom de Xavier Dolo pour celui de Thomas Géa.
Oui.
Comment est-ce que ça s'est passé, ça
Eh bien, ça vient de mon premier roman. J'avais déjà publié une ou deux nouvelles, peut-être sous ce nom-là, mais c'est loin en tout cas. Mon éditeur chez Rivière Blanche. Alors Rivière Blanche, c'était une collection hommage au fleuve noir. Fleuve noir, Rivière Blanche, bon voilà, on a vite compris le parallèle. Et il se trouve que le fleuve noir Anticipation était une des plus grandes collections de science-fiction populaire française, qui avait publié un nombre incroyable de romans, 2000 hein, à peu près. Et dans cette collection-là, beaucoup de gens prenaient des pseudonymes. Donc pour coller davantage à l'hommage, puisque je publiais dans une collection hommage, j'ai décidé moi aussi de prendre un pseudonyme pour ce roman à Comelone qui paraissait chez eux en 2005. Voilà. Une fois qu'on a publié un roman sous un nom, il se trouve que on est un peu connu sous ce nom-là, donc on garde ce nom-là. C'est pour ça que j'ai gardé ce pseudonyme de Thomas Géa finalement, au détriment de mon vrai nom, ce qui a rendu ma mère un peu triste à l'époque.
Mais ton dernier livre est publié sous ton nom.
Mon dernier livre, non, c'est un roman qui s'appelle American Phase, qui a été édité et coécrit d'ailleurs avec Anne Fakouri, qui est une rennaise d'ailleurs aussi, qui est un roman de fantasy urbaine qui se passe à Chicago pendant la Prohibition, mais avec des fées. Et celui-là, effectivement, je l'ai publié sous mon vrai nom pour faire plaisir à ma mère, qui en a été effectivement extrêmement ravie.
Tout à l'heure de la nouvelle qui n'était pas très rémunératrice. Les premiers récits de science-fiction dans les années 50 étaient publiés justement sous cette forme, dans les fanzines, des revues périodiques consacrées à la science-fiction. Aujourd'hui, les fanzines ont disparu, les nouvelles sont moins rémunératrices, donc le roman a pris la place dans le paysage littéraire de la science-fiction. Pourtant, il y a toujours des auteurs, des autrices qui publient des nouvelles sous forme de recueil ou d'anthologie. Et c'est ton cas, puisque tu as publié Les Créateurs en 2012 et puis plus récemment Chuchoteurs du Dragon et Autres Murmures l'année dernière. Qu'est-ce qui te plaît, toi, dans ce format-là ? Pourquoi est-ce que tu penses que la nouvelle se prête bien à l'exercice d'écriture de science-fiction ou de fantasy ?
La nouvelle, c'est vraiment un laboratoire, pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. On est vraiment maître de notre histoire et sur un format relativement court, où on peut développer soit une structure, une ossature, on peut jouer avec ça. On peut jouer avec beaucoup de choses dans la nouvelle. On peut l'écrire de la façon qu'on veut parce qu'on n'aura aucune pression là-dessus. C'est-à-dire que comme les éditeurs ne recherchent pas spécialement des nouvelles, eh bien, c'est pour moi le support parfait pour écrire ce qu'on veut. Et donc finalement, c'est aussi la force de la nouvelle, c'est que eh bien, comme les auteurs ne sont pas vraiment rémunérés à leur juste valeur, j'allais dire, pour ce support-là, eh bien, ils le voient eux aussi comme un laboratoire, la plupart des auteurs. Et ils vont prendre parfois plus de risques dans l'écriture d'une nouvelle que dans l'écriture d'un roman. Un roman va être diffusé à plus forte échelle. La nouvelle, quelque part, n'aura quasiment aucune incidence sur la carrière d'un auteur. Donc évidemment, on va retrouver, pour moi, à mon sens, dans les nouvelles, des idées souvent beaucoup plus fortes que dans les romans. C'est pas tout le temps vrai, bien sûr, hein, mais c'est souvent le cas, je trouve. Et en imaginaire, effectivement, c'est le cas aussi. La nouvelle, c'est souvent plus rapide à écrire. Souvent, hein, je dis, parce que c'est pas toujours le cas non plus. Et elle permet de mettre vraiment en scène, j'allais dire, une idée forte. Et autour de cette idée forte, sur un format court, on va pouvoir dire les choses fortement aussi. On ne va pas diluer le discours, on va le diffuser de façon franche et peut-être plus efficace parfois aussi que dans le roman. Du coup, c'est là, je trouve, qu'est la force de la nouvelle, c'est qu'elle va nous apporter beaucoup d'idées fortes et peut-être même les diffuser plus rapidement qu'un roman. Pourquoi, en fait? Parce qu'une nouvelle aussi, bah, eh bien, ça s'écrit plus rapidement, parfois ça se publie plus rapidement aussi. C'est comme ça que aux États-Unis, dans les années 20, 30, jusqu'à années 50, dans le phénomène qu'on appelle les pulps, hein, les pulps magazines, eh bien, les Américains ont vécu un âge d'or. Un âge d'or de la science-fiction. Pourquoi ? Eh bien, parce que se publiaient énormément de nouvelles, qui diffusaient énormément d'idées. Et comme elles se publiaient très rapidement, eh bien, ça a fait un effet boule de neige. C'est-à-dire que les idées sont devenues de plus en plus brillantes jusqu'à amener la science-fiction finalement telle qu'on la connaît maintenant, avec toutes les qualités qui lui sont reconnues, bien sûr. Et c'est la nouvelle qui a apporté ça, plus que le roman. Le roman a commencé vraiment, en tout cas aux États-Unis, à se diffuser à partir du début des années 50, avec la création de petits éditeurs qui reprenaient d'ailleurs les nouvelles parues dans les pulps et qui formaient des romans, eh bien, ceux d'Isaac Asimov, ceux de Clifford Simak, ceux de Alfred Edton Van Vogt, ceux de Robert Heinlein, enfin, tous ces grands auteurs qui ont fait l'âge d'or de cette littérature-là. Mais c'était avant tout des écrivains de nouvelles. Et effectivement, alors, les lecteurs semblent avoir pourtant déserté la nouvelle pour le roman. Je pense que c'est qu'une question de temps pour que ça revienne aussi, à mon sens, parce que eh bien, la société va aussi un peu plus vite maintenant. On a moins de temps parfois pour nous. On rentre le soir, on est fatigué. Eh bien, quoi de mieux finalement qu'une nouvelle pour passer un petit peu de temps avec de la littérature avant d'aller se coucher, par exemple, eh bien la nouvelle est parfaite pour ça. On prend les transports en commun, la nouvelle est parfaite pour ça. Moi, je vois plein de qualités à la nouvelle, plein de qualités finalement qui sont spécifiques à elle et pas totalement au roman. Voilà pourquoi aussi j'adore en écrire, parce que je trouve que c'est ça, c'est un vrai laboratoire, on peut y dire et on peut y faire ce qu'on veut, sans avoir quelque part à être jugé.
Justement, dans ton recueil de nouvelles Les Créateurs, qui est paru en 2012, on retrouve des éléments de tes racines trégorroises, on retrouve une certaine inspiration de ce côté-là. Est-ce que tu penses que la nouvelle permet aussi des fois d'aborder des sujets plus personnels ?
Oui, complètement. Et de les écrire de la façon qu'on veut aussi. C'est vrai que quand je regarde mes romans et quand je regarde mes nouvelles, dans mes romans, on va trouver très peu de choses personnelles. Dans mes nouvelles, on va plus facilement en trouver. Dans Les Créateurs, on va retrouver une nouvelle, par exemple, qui s'appelle Copo. Copo, c'est l'histoire d'une jeune femme hein, qui vit dans les années 80 avec ses grands-parents parce que ses parents sont morts. Et son grand-père ne lui parle absolument pas. C'est un taiseux. Ça se déroule dans une ferme qui, eh bien, dans ma tête, est la ferme familiale. C'est la ferme de mes grands-parents. Ensuite, évidemment, j'ai broder une fiction à l'intérieur, mais tout ce qui fait appel à la nostalgie, par exemple, dedans, eh bien, ce sont des éléments que j'ai récupérés de ma propre jeunesse. Ce qui fait que, eh bien, je pense pas que je puisse écrire un roman complet avec ces idées-là et cette nostalgie-là et cette langueur-là, finalement, d'une certaine façon. Je trouve que, justement, c'est des idées, c'est comme des flashs, finalement, qui se prêtent mieux au format court et donc à la nouvelle qu'au roman. Ce sont aussi des nouvelles, peut-être, pour lesquelles j'ai une attention plus délicate pour l'écriture, par exemple, aussi. C'est des textes qui sont écrits d'une autre façon. La nouvelle, de toute façon, est une façon de tester d'autres formes d'écriture. Et moi, je teste beaucoup de façons d'écrire dans les nouvelles. Et peut-être que je prends moins de risques, justement, dans les romans.
Mais ça permet de se trouver aussi en tant qu'écrivain ?
Ah oui, oui, parce qu'on a besoin de racines en fait. Hein. Moi j'ai besoin de garder mes racines et elles sont importantes justement dans mon processus d'écrivain. Et c'est pour ça que parfois, eh ben, effectivement, on a envie d'écrire des choses qui nous ressemblent le plus et qui nous ressemblent le plus profondément. Et je pense que, alors là, tu citais les créateurs, effectivement, je pense qu'on va retrouver dans ce recueil la plupart des choses qui font que ces textes, c'est moi et pas un autre. C'est pas interchangeable, j'allais dire, voilà. Aucun autre écrivain n'aurait pu écrire ces nouvelles-là. Et je pense que c'est la principale caractéristique de mes nouvelles, c'est que je pense pas qu'elles auraient pu être écrites par quelqu'un d'autre, parce qu'elles font appel à ce que j'ai vécu et à ce qui fait ma personnalité, je pense.
Ta dernière publication, justement, c'est un recueil de nouvelles, c'est Chuchoteur du dragon et autres murmures,
oui.
Pour lequel d'ailleurs tu as reçu le prix Imaginal cette année, prix qui sera sûrement décerné plus tard. Mm-hmm. Est-ce que tu as d'autres projets, justement, soit de recueil de nouvelles ou autre chose? Il me semble que tu es sur un projet de BD aussi en ce moment.
Oui.
Quelles sont tes pistes là à venir?
Alors là, effectivement, Chuchoteur du dragon a été primé aux Imaginales, donc j'étais content, c'est sûr. Bon, la remise se fera en octobre pour le mois de l'imaginaire, a priori. Donc, je ne sais pas encore dans quelles conditions, mais on verra. Quant au projet, alors oui, j'en ai pas mal, effectivement, de mon côté. J'ai une bande dessinée. Ça étonnera pas grand monde pour le sujet, hein, puisque j'écris une histoire de la science-fiction en bande dessinée qui sera publiée aux Humanoïdes Associés, normalement, en novembre. Donc, c'est 200 pages d'histoire de la science-fiction. Ça va être un gros truc. J'ai hâte de le voir publié, mais je ne l'ai pas encore tout à fait fini. Il me reste une cinquantaine de planches à écrire.
Tu travailles avec un dessinateur, du coup, une dessinatrice?
Alors, je travaille avec un dessinateur qui s'appelle Djibril Morissette Fan, qui est un dessinateur canadien qui travaille avant tout pour le comics et qui a fait du X-Men, par exemple, qui fait toujours du X-Men. C'est quelqu'un d'extrêmement brillant, qui travaille très vite et à la perfection. Enfin, moi, en tout cas, je lui envoie mes planches, elles sont faites dans la minute ou presque, c'est incroyable, quoi. Un tel talent, moi, ça m'éblouit. Hein. Je trouve ça fou, il va plus vite que moi, donc c'est moi qui est lent dans l'histoire, qui suis lent, pardon. C'est un projet, en tout cas, que j'ai hâte de voir concrétiser en livre, c'est certain, parce que c'est deux ans bien tassés de travail, donc ça m'a pris tout mon temps libre, hein, c'est sûr. Ça m'a pas empêché d'avoir d'autres projets, notamment des projets... sur le format court, parce que j'ai écrit, alors, dans un tout autre style, j'ai écrit une élégie, alors pour le coup c'est un poème, hein, écrit avec des hexamètres et des pentamètres, qui en fait c'est une élégie de science-fiction, qui va apparaître, alors je ne sais pas encore exactement quand, aux éditions Guater, donc à Rennes, hein, et ce sera illustré par une jeune femme extrêmement brillante, dont j'adore le travail, qui s'appelle Anna Boulanger, qui est une pointilliste, qui fait du noir et blanc superbe, enfin, je suis vraiment fan de son travail, donc j'ai hâte de voir ce petit projet paraître aussi. Et là, au mois de septembre, j'ai un roman qui paraît, c'est un Planète Opéra, c'est une réédition, hein, qui paraît en poche aux éditions Helios. C'est un Planète Opéra humaniste, qui n'est pas un roman d'action par excellence, mais qui parle justement d'altérité et de compréhension de l'autre avant tout, qui sera suivi d'ailleurs dans le livre d'une novella qui s'appelle « Unis l'écart sous la lune rouge ». Un texte de science-fiction aussi, hein, mais qui est plus dans ma veine bretonne. Donc voilà mes prochains projets, mes prochaines parutions. J'ai d'autres textes en tête qui doivent arriver chez leurs éditeurs, que j'ai promis. Mais pour l'instant, ils ne sont pas assez fixés pour que j'en parle réellement. Il y a un seul projet qui va pas tarder à sortir là, que j'ai mené à terme avec l'éditeur. C'est une anthologie qui s'appelle Aventures sidérantes. C'est une anthologie pulp, justement, qui fait appel à toute cette culture de la science-fiction américaine de la première moitié du XXe siècle. Et c'est une anthologie qui a été dirigée par un auteur malheureusement décédé qui s'appelle Martin Lessard, qui est un grand auteur canadien. Et c'était son dernier projet qu'on devait faire ensemble dans une petite maison d'édition que j'avais créée. J'ai pas pu le faire finalement. J'ai réussi à replacer le projet chez un petit éditeur qui s'appelle Flatland, qui est un super éditeur. Et donc en ce moment, cette anthologie est en précommande, voilà, sur le site de Flatland. Et voilà, je conseille aux auditeurs en tout cas d'aller peut-être y jeter un coup d'œil, parce que ça va être une superbe anthologie avec de grands auteurs comme Xavier Mauméjean ou Christian Léaurier. Enfin, il y a vraiment un gros sommaire. Donc, si vous aimez la nouvelle, si vous voulez découvrir la nouvelle, c'est peut-être le bon moment de découvrir ces gens-là, en tout cas avec cette anthologie.
On vient de passer 2 mois confinés là, chacun chez nous. Est-ce que pour toi, ça a été une période qui a été propice à l'écriture? Ou alors est-ce que c'est justement on manque d'inspiration quand on est enfermé comme ça si longtemps?
Alors, propice à l'écriture, Pas vraiment. Alors j'ai écrit une nouvelle de science-fiction sous forme de poésie. Par contre, j'ai rien écrit d'autre. J'ai des débuts de nouvelles que j'ai promis à d'autres éditeurs, mais que, bon, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de finir. Mais j'ai surtout effectivement travaillé sur la bande dessinée. Pendant, j'allais dire, un mois et demi, ça a été génial. J'ai réussi à bosser comme je voulais. J'ai lu toute la documentation que je voulais de fond en comble et comme je le voulais, justement, parce que enfin, je voulais pas rester en surface sur certains thèmes. Donc j'ai avalé des dizaines et des dizaines de livres, finalement. Donc j'ai pas eu de difficulté à lire, mais j'ai lu quasiment que des essais. Très peu de fiction, finalement. Sauf des nouvelles, de temps en temps, justement, parce que j'en parle dans la bande dessinée. Mais c'est surtout, effectivement, sur la bande dessinée que j'ai travaillé. Ça a été plus difficile les deux dernières semaines de confinement, mais globalement, j'ai pas eu de difficultés majeures à travailler, en tout cas sur la BD. Sur d'autres trucs, oui. Mais bon, la BD est accaparante.
Merci beaucoup, Xavier Delot.
Merci, Jeanne.